20h, 21h. Allô l'imam avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allô l'imam, l'imam Abdelali Mamoun. Alors je cherche un imam pour répondre à vos questions 01 53 48 3000 comme tous les soirs jusqu'à 21h. Le voilà. Vous avez fait piquer votre siège à votre micro. Qu'est-ce que vous faites, imam Abdelali?
Je suis en train de distribuer des gâteaux Chamia, les fameux gâteaux Chamia.
Kalbelouz,
effectivement. Voilà. Qui nous ont été offerts gracieusement par un ami, par un frère qui s'appelle Majid, qui est un ami aussi de Vanessa, et que sa mère surtout connaissait très bien. Et voilà, et il lui a offert un cadeau particulier pour Vanessa. C'est quoi? Vas-y, fais voir.
Tu lui diras, barakallah.
C'est des gâteaux, oh, c'est magnifique.
Il y a 30 kilos de gâteaux.
En fait, quand tout le monde a le droit de prendre, à partir avec un sac. Donc, tous les invités aujourd'hui ont le droit de prendre.
Ah, demain, on a une grande famille demain qui vient manger, Imam Abdelali.
Ouais.
Oui, demain. On a une grande famille qui vient demain.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais?
Oui, c'est la famille Lep.
Voilà, qui vient demain.
Lep, ils sont cambodgiens. Indien du côté du père et algérien du côté de la mère.
Waouh.
Et ils sont 7 personnes.
7 personnes qu'on reçoit demain. Donc ouais, on va cuisiner tout l'après-midi.
Une invitée VIP demain? J'ai entendu dire que vous avez une invitée VIP demain.
Ah, on ne sait pas encore, on verra.
Une invitée VIP, c'est-à-dire
une jeune fille qui doit venir demain soir à l'Olimam?
Je sais pas, peut-être.
Je sais pas. Autant pour moi, alors c'est pour toi qui dis des
Non, mais c'est juste
ça.
C'est qui?
Une Asma? Vous ne savez pas une fille qui s'appelle Asma demain?
Asma? Non.
Voilà.
En tout cas, elle est la bienvenue.
Voilà. En tout cas,
Asma, je sais pas ce que tu m'avais raconté.
Marbabia.
Bon, en tout cas, vous êtes tous bienvenus. Il nous reste encore 3 semaines et on a de la place.
C'est une radio conviviale et cordiale. Et hospitalière.
Et l'imam fait la vaisselle tous les soirs, donc vous.
Oh non, c'est Philippe qui fait la vaisselle.
Venez nombreux.
Ils sont trop mignons tous les deux, faut venir les voir. C'est ils mangent en couple, en duo, tout ça.
Machallah, effectivement.
C'est vrai, on a une
grande table de Louis XVI.
On a un vieux couple de radio.
Machallah.
Allez, 01 53 48 3000, ravi de vous retrouver. On a promis d'être avec vous tous les jours, 30 jours, pendant tous les jours de ce mois de Ramadan. L'imam Abdelali répond à toutes vos questions. Imam Abdelali, comment avez-vous passé cette journée?
Un peu chaude. Cette fois-ci, c'est vrai. Bon, ben, j'ai pas trop ressenti la soif, mais ça va, alhamdoulilah.
Bien, vous êtes en forme.
Parce que j'ai pas eu à parler beaucoup, disons si. Je suis resté toute la journée à répondre au téléphone. J'essaye de répondre au mieux aux
demandes. Si vous avez besoin, on peut faire standard, nous, avec Mehdi, hein.
Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas un standard, ils veulent un imam qui va répondre immédiatement à leurs questions immédiates.
Ah oui, je suis en première année, donc je ne peux pas répondre aux questions.
Non, tu es en première année, tu es en 30e année, toi. Ça fait 40 ans que tu fréquentes les musulmans et que tu fréquentes des savants, des cheikhs, des imams. Normalement, c'est toi le plus savant de nous tous, là.
Je vais venir au standard.
Je suis sûr que si je te demande à toi de répondre à la question avant moi, t'aurais la réponse.
Ouais, mais vous n'allez pas aimer toutes mes réponses. Hein.
C'est pas grave.
Allez, Jamila est à Grenoble. Elle a composé le 01 53 48 3000. Bienvenue, Jamila.
Allô.
Et bon Ramadan.
Wa alaykoum wa rahmatoullah.
Salam. Bonjour, monsieur l'imam.
Marhaba, nourti.
Et Aïfik. Mais je me demandais que je suis malade. J'ai l'orthopose, là, les os fragiles. Ça fait 2 mois.
L'ostéoporose. Comment on dit, Philippe?
L'ostéoporose.
L'ostéoporose.
Voilà. Et j'ai la tension, j'ai les nerfs dans le ventre et tout. Ça fait depuis des années, je prends le médicament depuis 78. Et je fais le Ramadan, je prends le médicament 4h30. Et cette année, j'ai pas arrivé parce que j'avais 84 kilos, j'arrivais à 53 kilos maintenant. Donc, j'ai des vertiges et je prends le médicament.
Alpha Amara, quelle madame? Quel âge vous avez?
64,
mashallah. Les barres,
mazel soghira. J'étais bien, mais là, ça fait amine. Mais les nerfs, j'étais énervée et tout, donc j'avais tout ce qui me chit le tbib.
Donc, tu veux que tu me c'est ça?
Mais moi, j'aime bien faire le Ramadan, mais le matin, j'arrive pas à me lever pour prendre le médicament.
Ouais,
pour l'attention,
je rappelle que les questions qui relèvent du médical, c'est le médecin qui prend la décision. Il a galak tabib soumi, il a galak ma soumi. هذا هو.
إلى سوم لا أفطر.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشيء اللي قرب العالمين. Non. Si vous pouvez vous rattraper un autre jour, les journées où sont courtes, etc.
Oui.
Eh bien, vous payez pas le fidya, vous rattrapez.
Je préfère à quelqu'un, oui. J'aime bien Ramadan, mais dommage, c'est né à la
fin. Inch'Allah, khair. Allah yashafik, Allah yashafik.
Et Aïsik, arhamouil, dès que ça a fait tour, comme il y a un mon
kata. J'aime bien.
Aïe, bislam, akhouye.
Allez, merci salam. Jamila. Samia, bienvenue, bon ramadan. Samia.
Samia, salam alaikum.
Allô l'imam, salam alaikum.
Salam
alaikum. Salam à vous l'imam et à Philippe, bien sûr, et à tous les auditeurs. Voilà, c'est salam, juste pour deux petites questions, s'il vous plaît. C'est pas Samia, c'est Salia. Hein.
Salia.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
En fait, je voulais. C'est l'arbia Saliha, c'est ça?
Oui, c'est Saliha. J'ai dit Salia parce que je suis tellement habituée qu'on m'appelle comme ça.
Oh, parce qu'en français, on ne prononce pas le ha, c'est pour ça. Donc ça fait
oui,
Salia.
Effectivement.
Oui, il y a Saliha.
Voilà, Saliha. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, concernant la haqiqa quand il y a une naissance. Oui. Et est-ce qu'il faut vraiment égorger un mouton ou bien est-ce qu'on peut l'acheter déjà égorgé et faire un don, s'il vous plaît?
Alors, l'objet de ce qu'on appelle l'aqiqa, ce n'est pas la viande, ce n'est pas la carcasse, ce n'est pas le hamle ghadi nsadqoube. L'objet de l'aqiqa, c'est l'immolation, c'est-à-dire al-dhabh. Et de citer le nom de l'enfant au moment où l'animal est immolé. Au moment où l'animal est égorgé, on va citer le nom de l'enfant. On dit bismillah, anil maulud, kada wa kada. Et on cite le nom de l'enfant. On dit flan, flan, wild, flan.
Excusez-moi de vous interrompre. Parce que j'ai vu des bouchers, ils me disent ah, on ne sait pas, on ne peut pas vous garantir. Donc ça m'a mis un doute. Et c'est pour
là, il faut aller dans les abattoirs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup à droite à gauche.
Non,
je ne veux pas vous faire la publicité pour les abattoirs halal en France. À Jossigny, par exemple, en 77, allez pour ne pas faire de la pub. Si vous arrivez là-bas, vous choisissez votre mouton et ils le font passer devant vous, derrière une vitre, bien sûr. Hygiénique pour respect des règles sanitaires. Et le boucher vous dit comment il s'appelle l'enfant. Il s'appelle un tel. Oui, il dit bismillah, anil maulud, un tel. Oui, il s'appelle Wild.
Je vous remercie.
Après la viande, faites ce que vous voulez. Vous voulez la garder. Vous voulez faire une zerda ou tardines, vous invitez les gens.
Non,
mais j'ai dit bien, écoutez, vous faites comme vous voulez. Si c'est bien. Vous voulez faire une invitation, une fête, c'est bien. Vous voulez garder dans le congélateur, c'est bien. Kulchimle. Le mieux, c'est sadaqa, bien sûr.
Merci mille fois. Et une autre petite question, je ne veux pas vous embêter. Concernant le ramadan, pour une personne qui ne remboursait pas ses dettes, si je peux expliquer comme ça, quand elle avait les menstrues, qu'après elle.
Oui, voilà, elle n'a pas rattrapé ses dettes.
Et ça fait des années, puis c'est maintenant qu'elle a pris conscience.
Et elle jeûne un lundi, un jeudi par-ci par-là, ou tsaddaq chouya menna ou menna, ou salam. Voilà.
Et Dieu est miséricordieux envers elle. Il sera
oui, bien sûr. Mais il faut qu'elle multiplie.
Moi,
en fait, il faut
hein.
qu'elle
la multiplie.
Non.
Ma personne, c'est
allez,
moi.
Allez, Inch'Allah, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, c'est pareil. À la Koulihal. Quelqu'un qui a négligé le jeûne, il multiplie les jeûnes surérogatoires. Ils sont maintenant le lundi, le jeudi, les trois jours de pleine lune, Ashura, Arafat, toutes ces occasions, ces opportunités pour faire le siyam, ils sont.
Merci mille fois.
Non, voilà.
Merci mille fois. Bon appétit à vous. Bonne continuation. Au revoir.
Merci. Salut Sabrina. Bienvenue. Bon ramadan.
Allô, oui. Allô l'imam.
Allô, salam alaikum.
Salam alaikum. Salam à toute l'équipe de Beur FM. J'ai deux petites questions qui se suivent quand. En fait, je voudrais savoir est-ce que dans le Coran, on dit que le voile est obligatoire ou pas?
On a souvent évoqué cette question.
J'ai une petite question. Vous remarquerez que Sabrina dit j'ai deux petites questions.
Alors non, parce qu'il y en a une autre après derrière.
Ouais.
Bah, c'est la même en fait. Elle a un rapport avec la première.
C'est quoi?
Si jamais on fait un Amra ou un Wahej, est-ce qu'on est obligé de le porter définitivement ou pas?
D'accord, très bonne question. Alors voilà, d'abord il faut savoir ce que disent les savants et notamment les quatre écoles juridiques sunnites concernant le fait pour une femme de se couvrir les cheveux avec un voile, avec n'importe quoi, bref, de cacher ses cheveux et de ne laisser apparaître de son corps que les mains et le visage. Ça, il y a un consensus, c'est-à-dire ijma' al-ulama annahu fard, que c'est obligatoire de cacher tout son corps et de laisser apparaître les mains et le visage. Ça, c'est l'avis des quatre écoles. Il existe des avis, on va dire, irréguliers, minoritaires, qui disent qu'effectivement, dans le Coran, il n'y a rien qui, de manière explicite, impose à la femme de se couvrir les cheveux. Puisque dans la sourate Nour, il est dit à la femme de rabattre son voile sur la poitrine, donc c'est de cacher sa beauté, puisque le verset suivant est « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » et qu'elles ne montrent pas leur parure, leur beauté. Donc l'objectif, c'est bien de cacher tout ce qui peut exciter les hommes. Le deuxième verset qui est dans la sourate les coalisés, sourate l'Ahzab, Dieu dit au prophète, dis à tes femmes, à tes épouses et aux femmes des croyants de baisser leur jilbab, c'est-à-dire leur robe, jusqu'à en bas, jusqu'au bas du des pieds, jusqu'aux chevilles, de ceci afin qu'elles soient reconnues comme étant des femmes dignes et respectables et que personne porte atteinte à leur dignité. Dalika adna an yu'arafna fala yu'dhayn. Donc ces deux versets-là ont été interprétés selon avec des hadiths bien sûr qui sont associés à cela, sauf que les hadiths qui sont associés ne sont pas eux aussi d'une authenticité indiscutable. Donc c'est tout ça est contestable et peut être remis en cause. Mais effectivement, à travers l'histoire et notre héritage anthropologique de l'islam qui a toujours été dirigé par des hommes, où la femme a souvent été un petit peu relayée au rang de citoyenne de seconde zone, on va dire celle qui est sous la tutelle des hommes et qui a besoin d'un tuteur à vie et qui reste mineure à vie, parce qu'il faut le dire, elle mara la tusafir illa ma'a mahram, elle ne se marie que ma'a mahram, elle ne peut entreprendre quoi que ce soit que seulement avec le mahram. Donc elle est sous tutelle d'un homme à vie. Et ça, c'est encore dans notre héritage, dans nos encyclopédies islamiques de droit musulman. Et effectivement, il y a des choses à faire. Il y a du nettoyage peut-être à faire. Et ça, ce sont les savants de le faire. Pas moi, Abd al-Ali, qui va dire « Non, il n'y a pas de hijab dans le Coran » ou « Il n'y a pas de hijab dans le Sunna ». Ça ne sert à rien que moi, je polémique sur cette question. Je pense que c'était à des hayat fiqhiyat, des institutions religieuses et théologiques, de trancher sur ces histoires-là et de régler cette question qui est gravissime parce qu'elle concerne l'avenir et le quotidien de la moitié de notre communauté, de millions de femmes qui sont musulmanes et qui vivent en France et qui ont besoin de travailler et qui ont besoin de s'émanciper dans des vies professionnelles et qui malheureusement, parce qu'on leur dit que le voile est obligatoire, eh bien vous ne pouvez pas travailler avec votre voile. C'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a énormément de lutte en la matière par des sœurs qui se battent pour essayer de garder leur voile et travailler. Je les félicite pour ce travail-là parce que moi, la règle d'abord première, c'est de dire les femmes doivent avoir le choix de s'habiller. Une femme doit être libre de porter ou de ne pas porter un voile. C'est ça la règle principale que je dis à tout le monde. Al-rajul mar'a hur wa hurra an talbis kama tasha. À part bien sûr les règles d'attentat à la pudeur, de se promener dans la rue tout nu, etc. Ça, c'est interdit. On peut pas d'avoir des relations intimes dans la rue, c'est interdit. Faire du racolage, c'est interdit. Il y a un certain nombre de règles de mœurs qui relèvent des mœurs et qui sont effectivement inscrites dans les textes de loi françaises. Mais à part ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, moi, c'est la règle que je dis. Mais habillez-vous comme bon vous semble, mais si celles qui veulent envie de respecter les préceptes de l'islam, l'important et l'esprit du texte, c'est de vendre son intellect, c'est de vendre son être, c'est-à-dire son intelligence et non pas son corps et ses atours et ses formes. La femme a autre chose à vendre que cela. Si elle a ces formes-là et ces atours qu'elle a, elle doit les consacrer exclusivement pour son conjoint et pour son mari. Elle doit faire preuve de fidélité et de chasteté pour son conjoint. C'est la morale musulmane, chrétienne, juive et la morale ancestrale depuis la nuit des temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Est-ce que Sabrina, ça répond à votre question ?
Mais il n'a pas répondu à ma deuxième question. Est-ce que c'est
est-ce que quand au retour du Hajj ?
Non, écoutez, la règle est la même avant et après le Hajj. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Qu'est-ce qui est plus important ? C'est le pèlerinage ou la prière ? Répondez-moi.
La prière.
Alors pourquoi après la prière, on se sent pas obligé de porter le voile et après le hajj, on se sent obligé de porter le voile alors que la prière est plus importante. Pourtant, si c'est plus important, on devrait être plus sensible à porter le voile après la prière qu'après faire le hajj. Pourquoi après le hajj, je devrais être plus sensible à porter le voile qu'après la prière ? Soit je me sens sensible à porter le voile, je le porte après la prière, mais je ne vais pas attendre le hajj pour porter le voile ou ne pas le porter. C'est pas le hajj qui doit déterminer mon choix de porter ou de ne pas porter. Je vais au hajj parce que c'est un pilier de l'islam. Je fais ma prière parce que c'est un pilier de l'islam. Il faut pas l'associer à une règle qui relève purement de ce qu'on appelle de comportement vestimentaire et des règles vestimentaires et qui relève plutôt des règles secondaires par rapport aux piliers et aux fondements de notre religion. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et Allah Azza wa Jal an yulhimana as-sawab, inshallah, wa an yurdana ila dinihi raddan jamila.
Merci pour votre réponse et sahaf tourkoum.
Et c'est le maqueur, c'est le calif.
Merci Sabrina. L'imam Abdelali répond à vos questions dans un instant. 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Allô l'imam, c'est jusqu'à 21h sur Beurre FM.
Allô l'imam, reviens dans un instant. Beurre FM, 20h-21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon.
Il est même Abdelali Mamoun qui répond à vos questions au 01 53 48 3000. Alors, merci de poser une question à l'imam parce que vous êtes très nombreux à vouloir lui parler. On accueille Sarah qui nous appelle de Paris. Bienvenue. Bon ramadan, Sarah.
Merci beaucoup, Philippe. Allô, l'imam. Salam alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Voilà, donc moi j'ai une question. J'ai accouché lundi à terme. Par contre, mon bébé est mort in utero.
In utero, c'est-à-dire avant de sortir du ventre.
Avant de sortir du ventre, voilà. Et je voulais savoir, est-ce qu'il faut faire Salat Jenaza sur lui ? Est-ce qu'il faut faire Hakika ?
D'accord. C'est bon, j'ai compris votre question.
Merci.
Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous présenter mes condoléances. Adamallahu ajrakum. Wa yani astabara alaykum as-sabr wa as-silwan. Et qu'Allah vous donne la consolation et la patience, Inch'Allah, face à votre épreuve, Inch'Allah, qui est certainement très douloureux.
Donc, très voilà. Douloureux, merci.
Alors, vous avez d'abord un avis ancestral, c'est-à-dire ancien, celui qui est l'ancien. Oui. L'ancien, il consiste à dire qu'à partir du moment où un enfant naît et qu'il ne pleure pas au moment où il naît, eh bien, c'est un enfant né mort, né décédé. Il n'y a ni prière, ni janaza, ni rien du tout. Ni aqiqa, ni à donner un nom, ni rien du tout.
D'accord.
On l'enterre dans un cimetière et puis c'est tout. Il y a pas de ce qu'on appelle les rites du funérailles. Les rites funéraires ne sont pas imposés quand il s'agit d'un enfant né mort.
D'accord. D'accord.
Ça, c'est l'avis ancien. Et vous avez un avis contemporain qui consiste à dire que maintenant la science nous dit que l'enfant, il a une âme à partir de 4 mois et que il est vivant tout dans le ventre de sa mère et s'il meurt quelques instants avant de sortir du ventre de sa mère parce que il y a eu des complications, il s'est étouffé dans le cordon ombilical, il y a plein de raisons, plein de motifs qui peuvent provoquer la mort d'un bébé. On doit faire célébrer les funérailles et le considérer comme un être humain vivant, même s'il sort mort.
D'accord.
Voilà, c'est la vie contemporaine. Donc moi, pour concilier les deux, je dis quoi ? Je dis tout simplement que, alhamdoulilah, c'est une miséricorde qu'Allah Azzawajal nous fait don à travers ces avis-là. Pour dire quoi ? Pour dire à ces femmes qui ont des sensibilités différentes. Certaines disent, voilà, moi je veux faire le deuil, j'ai besoin de funérailles, j'ai besoin qu'on lui donne un nom, j'ai besoin qu'on... Alors la haqiqa, non, il n'y a pas, ça c'est sûr. Parce que la haqiqa, c'est quand l'enfant a seulement 7 jours. Donc là, il n'a pas 7 jours, il est mort avant. Donc, par contre, qu'il y ait une toilette mortuaire, une prière mortuaire, qu'il soit enveloppé dans un linceul, et qu'il soit enterré dans un carré musulman, dans un cimetière musulman, certaines femmes ont besoin de faire le deuil de leur douleur, de leur souffrance, à travers toutes ces funérailles-là. Et il y en a d'autres qui disent non, moi je veux pas le voir, je veux même pas en entendre parler, débarrassez-moi de lui, sinon je vais souffrir. Donc je veux même pas l'entendre parler. À ce moment-là, on fait rien. On applique la loi ancienne, la fatwa ancienne, qui consiste à dire qu'un bébé né, qu'on appelle le sirt, qui naît mort, qui ne pleure pas au moment de naître, qui est né avec le cœur qui ne bat pas, eh bien, on ne célèbre pas sur lui les funérailles. Aucune funéraille musulmane. Et on n'est pas obligé de l'enterrer dans un cimetière musulman. Dans une fosse commune, ça suffit.
Alors moi, je l'enterre demain, Inch'Allah, en Algérie. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut le laisser dans le cercueil ou il faut le mettre directement linceul sous la terre ?
Alors, il sera forcément transporté en cercueil, ça c'est sûr. En arrivant là-bas, vous respectez les coutumes du pays. Normalement, ils le sortent du cercueil, ils l'enterrent directement avec son linceul dans le corps. Voilà, il faut respecter non seulement les coutumes, mais les lois. Alors, si les lois, ils disent non, madame, il est arrivé sous bière, c'est-à-dire qu'on l'a scellé, on va le laisser tel quel, eh ben, on l'enterrera comme tel, il n'y a pas de souci. Soit il dit on va ouvrir le scellé et on va l'enterrer dans son linceul sans la boîte, sans le cercueil qui l'enveloppe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de souci, les deux sont bien.
Donc nous, on avait prévu d'égorger un mouton parce qu'on pensait qu'il fallait faire la hakeka.
Il n'y a pas de hakeka.
Donc là, ce sera une sadaka qu'on fera et ce n'est pas la hakeka, c'est bien ça.
Non, il n'y a pas de, ni de sadaka, il n'y a, y a,
ah,
y a
rien.
Non, il y a simplement d'être... Déjà, vous êtes éprouvé par la douleur de perdre un enfant. Normalement, cette sadaka-là, elle est là pour remercier d'un don que Dieu nous a fait. Là, il nous éprouve. Donc l'épreuve, elle exige simplement de vous de la patience. Patience. Une sadaqa, oui, pour vous aider, pour implorer Dieu qu'il vous accorde la patience, c'est bien.
Voilà.
Mais pas plus, quoi. Il n'y a pas de prescription ou de recommandation du prophète alayhi salam qui consiste à dire que si un enfant naît mort, eh bien, il faut faire une sadaqa. Il n'y a pas de sadaqa prescrit. Ça serait une innovation que d'inventer ça.
D'accord. D'accord. Et là, en période de l'occise, est-ce qu'on peut lire le Coran ou pas?
Non, parce que de toute façon...
Je parle pour moi.
Bien sûr. C'est par la lecture et par le rappel de Dieu que ça apaise les cœurs. Vous avez besoin d'apaiser votre cœur, lisez le Coran, mettez le Coran à la maison, c'est très très bien.
D'accord.
Maintenant, essayez de tourner la page, de cicatriser le plus rapidement ce mauvais moment de votre vie, et puis de repartir sur de bonnes bases et de pourquoi pas d'engager une nouvelle procédure pour avoir un bébé, un autre bébé, inchallah, qui lui arrivera en bonne santé, inchallah.
D'accord, entendu. Merci beaucoup. Merci Sarah.
Khadija est avec nous. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan.
Je voudrais quand même consoler la sœur, si elle permet, par un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit quoi? Quand un enfant d'un serviteur, d'une femme ou d'un homme, meurt, les anges, Allah dit aux anges, vous avez enlevé l'âme de mon serviteur. Les anges répondent, oui, nous avons enlevé l'âme de ton serviteur, du fils de ton serviteur. Vous avez enlevé l'âme de ce qu'il avait de plus cher, de thamarata fuadihi, de son cœur, de ce qui était imprégné dans son cœur. Ils disent, oui, ya Rabbi, on a fait ça. Et il dit, comment a réagi mon serviteur? Mada qala abdi, qu'a-t-il dit ya abdi, aux mes anges? Fayaquluna hamidaka wastarja. Il a dit, alhamdulillah wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Et là, Dieu dit aux anges, informez mon serviteur qu'il aura une maison au paradis et informez-lui que cette maison s'appellera la maison de la louange. La maison de la louange est la maison qui est accordée aux personnes qui perdent un enfant né et qui sont patients et qui manifestent de la patience et qui multiplient la formule, nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, Imam Abdelali. Khadija, donc, est avec nous.
Allô, l'imam.
Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam. Voilà, je vous appelle concernant la personne que vous avez eue juste avant moi, toutes mes condoléances pour cette personne-là aussi, parce que c'est, comme vous avez dit, elle est éprouvée, c'est pas évident. Et je vous souhaite une charlachette pour elle la prochaine fois, inchallah.
Un autre hadith qui dit, je jure sur celui qui tient son âme entre mes mains, le prophète dit, que le jour de la résurrection, ce nouveau-né viendra chercher sa maman pour le prendre et le tirer au paradis.
Inch'Allah.
Personne pourra l'empêcher de prendre sa mère qui a été patiente. Inch'Allah. Elle le prendra et le ramènera avec lui au paradis.
Inch'Allah, pour cette personne-là. Moi, je vous appelle parce que
je le dis en arabe. والذي نفس بيده إن السقط لا يجر أمه بسره إلى الجنة إذا احتسبته رواه ابن ماجه وغيره.
Amen.
وصححه الألباني. Authentifié par l'Albani. Voilà. Je voulais dire sur ce sujet. Merci. Allez-y, votre question, ma sœur.
Ah oui, excusez-moi. Oui, donc ma question, c'est, voilà, moi je suis une personne coquette, et en fait, je me mets du vernis à ongles. Et il y a plein de personnes qui me disent, écoute, quand tu fais ta prière, le vernis à ongles, c'est pas bon, ça passe pas avec... il faut pas que tu fasses ta prière avec le vernis à ongles.
Oui, bien sûr, ça empêche l'accès de l'eau aux ongles. Et les ongles, étant donné qu'ils font partie de la main, et la main doit être intégralement mouillée par l'eau au moment des ablutions, forcément les ablutions sont invalides. Et si les ablutions sont invalides, la prière est invalide.
Oui. D'accord, très bien.
Donc si quelqu'un met du vernis, il faut que ce soit un vernis qu'elle puisse enlever, retirer. Il y a aussi aujourd'hui des vernis spéciaux spéciaux, on va dire ça comme ça, qui laissent passer l'eau à travers. J'en ai entendu parler, je pense que...
C'est celui que vous avez aujourd'hui, montrez-moi.
Non, j'en ai pas de vernis. Moi, je bouffe mes ongles, Philippe. Moi, je suis plutôt...
ce que vous dites à Khadija pour le vernis, c'est la même chose pour les faux ongles, parce qu'il y a beaucoup de faux ongles aujourd'hui.
À partir du moment où vous avez un ha'el, c'est-à-dire un quelque chose qui vient empêcher l'accès de l'eau aux ongles, vos ablutions sont pas valables.
D'accord, très bien.
Mais si vous avez des faux ongles, vous pouvez enlever et les remettre, il n'y a pas de problème. Bah, encore que les faux ongles, c'est pas...
Est-ce que ça casse le jeûne?
Non, mais déjà, est-ce que c'est licite de rajouter des faux ongles? Est-ce que ça ne considère pas comme wasl?
Mais si vous mangez vos ongles, ça casse le jeûne si vous mangez vos ongles, Imam Delali, pendant le ramadan?
Alors, par contre, si je les recrache avant de les avaler, non, ça casse.
Ah bon,
pas.
D'accord.
Oui, si je les avale, si, ça casse.
C'est moi qui ai posé la question à Abdelali.
Bonne question.
Manger ses ongles pendant le ramadan, est-ce que c'est autorisé?
Ouais, non.
C'est jamais autorisé.
Faut pas avaler.
C'est une vraie question de profane comme ça.
Non, mais je parlais plutôt de ronger, pas d'avaler les ongles de façon.
Ah, vous avez dit bouffer, Abdelali.
Ouais, mais bon, t'as compris ce que je veux dire, Manu. Marhaban, Urti. Est-ce qu'on a répondu à ta question?
Oui, je vous remercie beaucoup.
Je vous souhaite bon courage, Urti.
Pareillement.
Merci, Khadija. Toulouse, on va retrouver Jamel qui vous appelle au 01 53 48 3000. Bienvenue, Jamel. Bon ramadan.
Oui, allô. Allô, Jamel.
Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam. Je voulais passer le salam, mais j'ai oublié son prénom, c'est Philippe, je crois. Oui,
c'est moi, c'est Philippe. Bonsoir,
Philippe,
Jamel.
La star, Philippe, eh oh. Oui. Quand même, un peu de respect, hein. Subhanallah, ça fait un siècle qu'il fait partie des murs de Beurre FM. C'est presque blasphématoire, ça. Comment vous devez le savoir sans.
Oui.
Sans hésitation.
Là, j'ai la honte de votre faute.
Je suis perturbé parce que voilà. C'est pas évident d'avoir un.
Marc Babic, je plaisante. Rachel Kalim, je plaisante. Vas-y.
Ouais, je sais. En tout cas, voilà. Je voulais vous féliciter, en fait, pour ce que vous faites, l'investissement que vous donnez. Et donc, j'avais une question. Bon, ça peut paraître peut-être un peu futile. Ou, je sais
vas-y,
pas.
Khoya, réel, vas-y. Khalinam les introductions, là. Vas-y, pose ta question.
Je vais aller plus loin pour ta question, c'est pour ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, j'étais marié en fait à une femme et on est divorcé. Et si vous voulez, je me posais la question par rapport à la discrétion, par rapport au couple. C'est-à-dire parce que il s'avère que bon après le divorce j'ai entendu que bon déjà elle a donné des mauvaises versions à sa famille et à des proches, à mes proches, et je voulais savoir si ça c'était haram. Est-ce qu'il fallait faire preuve de discrétion quand on était en couple, c'est-à-dire ne plus rien dire après?
Mais ne plus rien dire par rapport à quoi?
Mais par rapport que ce soit voilà à la vie quotidienne, aux conflits, des trucs comme ça quoi.
Est-ce que c'est bien d'aller dévoiler sa vie intime aux autres? C'est ça que vous voulez dire?
Voilà, c'est ça. Pour moi, non. C'est pour ça que.
Mais c'est-à-dire la voix de ce que vous faites dans vos relations sexuelles, vous voulez dire, c'est ça?
Non, pas ça.
Ah non, juste les conflits, les histoires, les.
Voilà, les soucis, les cela, les. C'est ta faute, c'est pas ma faute, et toi, des trucs comme ça quoi.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, notamment beaucoup de femmes. Moins chez les hommes, qui ont une complicité avec leur maman notamment, ou avec leur papa. Et ils ont des fois envie de libérer et de raconter ce qui se passe à la maison chez les beaux-parents. Et ça, c'est effectivement extrêmement toxique comme comportement.
Oui.
Très mauvais. Votre vie vous regarde, à vous, et les parents n'ont pas à se mêler de la vie intime du couple. S'ils ont un conflit qui peut aboutir à un divorce... Là, effectivement, Allah Azza wa Jalla encourage de organiser une médiation. Et cette médiation doit être composée d'un membre de la famille du marié, du mari, et un membre de la famille de la mariée, de l'épouse.
D'accord.
Et clairement, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Donc voilà, il est clairement dit que en cas de conflit, en cas de litige qui peut aboutir à un divorce, à ce moment-là, organiser d'abord une médiation, une séance de conciliation ou de réconciliation pour éventuellement essayer de réconcilier le couple.
Nous, il n'y a pas pu avoir ça parce que elle s'est maintenue dans sa version.
Ah, ça y est, vous avez divorcé, vous ?
Oui, on a divorcé, oui.
D'accord. Et vous avez de la nostalgie alors de tout ça, c'est ça ?
Ça m'a énervé parce que c'est pas la première fois que ça arrive en fait. Je me suis marié deux fois. La première fois, j'ai laissé passer. Donc, mon ex-épouse est partie voir tous les gens qu'on connaissait, raconter sa version. J'ai rien dit parce que je me suis dit, je partais du principe qu'il faut pas parler de la vie de couple.
Non, mais attends, la question elle est pas là. La question est si le grief qui est entre vous, est-ce qu'il est grave, est-ce qu'il mérite d'être dévoilé? C'est ça, donc c'est du cas par cas. On peut pas donner une généralité. C'est quoi pour le deuxième cas? C'était quoi?
Pour moi, c'est futile en fait.
Le grief, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi le grief? L'objet du litige, le conflit.
Mais l'objet du litige, déjà, ne serait-ce qu'un mois après le mariage, je voulais déjà divorcer parce que j'ai vu qu'elle était impulsive, qu'elle se contrôlait pas, qu'elle s'énervait trop vite, que je sentais qu'elle allait pas changer.
Non mais attends, à part le comportement et le caractère, qu'est-ce qu'il y avait comme vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Khil Karim, si tu peux nous donner vite fait. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les beaux-parents? L'intrusion des beaux-parents? C'est quoi?
Non, il y a eu aucune.
Des relations intimes?
C'est juste pour rapport à nous. Déjà, bon, elle pouvait pas avoir d'enfant, ça, elle me l'a caché, mais bon, je suis pas sûr de cela. Déjà, parce que, je suis pas sûr qu'elle me l'ait caché, mais je suis sûr qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle m'a caché pas mal de choses, si vous voulez. Et pour le divorce, en fait, elle n'a pas relevé ces choses-là. Elle a fait que dire que voilà, j'étais pas bien, ceci, cela, j'ai fait des fautes, voilà quoi. Elle n'a jamais sorti à aucun moment que elle, par exemple, voilà, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, voilà, quoi, des choses comme ça.
Si vous voulez bien, Javel, on va s'interrompre un instant parce que nous avons une courte page de publicité, puisque vous savez qu'on a des courtes pages de publicité en ce moment, et on vous reprend dans un instant. Reste en ligne.
Allô, l'imam, reviens dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon.
Il y a un numéro que vous retenez, le 01 53 48 3000, retour à Toulouse, et c'est Samia, imam Abdelali, qui vous appelle. Bienvenue et bon ramadan, Samia.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup, bon ramadan à tout le monde. Salam alaikum, ma chère.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
J'avais une question, en fait, concernant le ramadan de la femme enceinte. En fait, je fais du diabète gestationnel et donc les médecins m'ont déconseillé de le faire. Du coup,
vous êtes à combien de mois de grossesse?
Presque 7.
7 mois, mashallah.
Mmh. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à verser à deux personnes qui étaient dans le besoin. Donc, c'était l'équivalent de 20 jours pour pas avoir tout à donner à la fin du ramadan. Mmh. J'ai versé donc du coup 50 euros à une personne et 50 à l'autre. Du coup, il me reste logiquement 50 euros à verser. Sauf que j'ai entendu qu'apparemment, ça avait augmenté. C'était plus 5 euros par jour, mais un peu plus.
Non, ça n'a pas bougé. C'est toujours 5 euros, je vous rassure. Ce qui a augmenté, c'est la zakat al-fitr.
Il ne
faut pas mélanger la fidya. Là, vous me parlez de la fidya, là.
Oui, c'est ça. Hein?
Eh bien là, ce qu'on appelle qui a été augmenté, c'est la zakat al-fitr. Zakat al-fitr, qui est maintenant de 7 euros par personne.
7 euros par personne.
Que l'on verse avant la prière de l'Aïd.
D'accord.
Et on la paye une fois, pas 30 fois, ou une fois.
Ok, d'accord. En fait, là, du coup, vu qu'il me reste 50 euros, est-ce que, ça fait correspond à 10 jours que je n'ai pas jeûné, est-ce que je peux les garder pour les jeûner en hiver, si je peux, ou est-ce qu'il faut, vu que j'ai commencé à payer, il faut que je paye tout le mois?
Vous avez le choix, ma sœur, entre soit payer la fidya ou soit jeûner. Mais vous pouvez jeûner. Hein, d'accord? Vous pouvez,
d'accord.
Et vous avez la possibilité de décider de jeûner et de ne pas verser la fidya. Si vous pensez qu'en hiver, ça va être possible pour vous de rattraper ces jours de jeûne, ben vous les rattrapez et vous ne payez pas de fidya.
Ok, ça d'accord. marche. D'accord.
Essayez de faire ça avant le ramadan prochain.
Ok, ça marche, super. Et j'ai une autre question, ça concerne du coup Zakat al-Fitr. Mmh. J'ai mon mari qui va passer les deux dernières semaines de ramadan en Algérie. Du coup, on se demandait si, combien il doit verser du coup? Est-ce qu'il doit la verser
7
là-bas
euros.
Ou est-ce que moi...
7 euros.
7 euros, pareil.
7 euros pour chaque membre. Vous êtes combien dans la famille?
Là, j'ai un petit garçon et le deuxième qui va arriver, Shana. Donc...
D'accord, vous êtes donc 4.
Ok, on compte
4 fois 7
également. Okay.
4 fois 7.
Oui, 7 fois 4, du coup 28.
28, c'est bien. Vous avez connu votre table de multiplication, c'est très bien. 28 euros, allez, on va dire 30 euros comme ça il sera...
30 euros au moins, voilà.
30 euros,
très bien.
Voilà. Fisabilillah, mashallah.
Ok, très bien.
Il donne ça, beaucoup, il peut donner même ça en Algérie, hein, la totalité, s'il veut, s'il connaît des pauvres là-bas, il donne, là-bas.
D'accord.
Il est converti en dinars, 30 euros, il devient converti en dinars, et voilà.
30 euros converti en dinars, ouais. Ok, très bien, on va faire comme ça.
Inch'Allah.
Merci beaucoup, cher.
Salam alaikum.
Merci, Samia. Alors, c'est une autre Samia qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan, Samia.
Oui, allô, l'imam.
Oui, allô, salam alaikum. Vous écoutez votre question, on y va.
Voilà, j'aurais deux questions à vous poser. Ouais. Donc la première, en fait, j'étais enceinte et du coup, en fait, j'ai pas jeûné parce que j'étais à 8 mois de grossesse, donc j'étais pratiquement
d'accord,
à terme.
D'accord, ok.
Donc le médecin m'a déconseillé.
Oui, ok, à 8 mois, il y a pas besoin de déconseiller. C'est voilà. forcément déconseillé. C'était quand d'accord. ça, l'année dernière?
Non, en fait, c'était mes. J'ai eu l'année dernière avec ma fille. Donc là, en fait, j'ai pas rattrapé du coup mon ramadan. Donc on m'a dit que il fallait que je.
Alors attendez. Ne me dites pas que ce qu'on vous a dit. Dites-moi ce qu'il en est et moi je vais dire. Pas besoin de me dire.
D'accord.
Excusez-moi.
Est-ce
que vous devez payer la double peine, rattraper et payer la fidia, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Oui, mais attendez, qu'est-ce qui vous a empêché de jeûner? Est-ce que c'est la négligence ou est-ce que c'est le fait que vous allaitez votre enfant, par exemple?
Non, j'ai oublié. En fait, je voulais attendre que le maghrib soit plus court. Et dès que c'est arrivé, en fait, j'ai oublié. Donc, du coup, j'ai pas rattrapé.
Ah bah alors, écoutez, quand viendra l'hiver prochain, vous rattrapez vos jours de jeûne. Et par précaution, puisqu'il y a deux avis sur la question, mais on va donner l'avis le plus dur, eh bien, qui consiste à payer la double peine. Vous versez en plus 5 euros pour chaque jour non jeûné.
D'accord, très bien, d'accord.
Voilà.
Okay.
Voilà.
D'accord. Et pour ma deuxième question, je voulais savoir, pendant, je ne travaille pas, je garde mes enfants à la maison et je ne porte pas le voile. Donc là, pendant la période du ramadan, est-ce que le fait que je ne porte pas le voile, ça annule mon jeûne?
Non. Le fait de porter ou de ne pas porter le voile n'a rien à voir avec le jeûne. Le jeûne, on sait ce qui annule le jeûne. C'est de consommer, d'avaler quelque chose par la gorge, ou d'avoir, que ça soit liquide ou solide, ou par les parties intimes, donc ce qu'on appelle les voies naturelles, ou de consommer des relations intimes avec son mari.
D'accord. Voilà. On m'a dit qu'à partir du moment où on voit les cheveux et la beauté de la femme, en fait, ça annule.
Non, il n'y a aucun hadith, c'est pas vrai, il n'y a aucun hadith qui dit ça. C'est à part, c'est-à-dire qu'il faut dissocier les injonctions divines. Vous avez un devoir de cacher vos atours, de cacher vos parures, de ne pas montrer à des étrangers vos parures, comme le dit le Coran. Wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna. Wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna aw abaihim ila akhir al-aya. Donc, effectivement, mais c'est totalement dissocié du jeûne. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. Le jeûne, il est tout à fait valable. C'est comme si quelqu'un me dit, moi je jeûne et le soir je bois de l'alcool. Eh bien, son jeûne, il est quand même valable. Le jeûne est valable. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla ne pourra pas lui dire t'as pas jeûné. Mais il pourra lui reprocher d'avoir bu de l'alcool, bien sûr. Mais c'est dissocié.
D'accord.
Il ne faut pas mélanger. Il y a des pratiques qui sont associées et il y en a d'autres qui sont dissociées. Par exemple, les ablutions, c'est un acte d'adoration. Mais il est associé à la prière. Vous ne pouvez pas prier sans les ablutions. Ce sont deux actes d'adoration différents, mais qui sont associés, qui sont liés intimement l'un à l'autre.
D'accord. Et c'est pareil au niveau de la prière. Si on ne fait pas la prière, ça peut annuler le jeûne ou
Non, pareil, la prière n'est pas associée au jeûne. La prière est une obligation à part et le jeûne est obligation à part.
D'accord.
Donc on ne décourage pas quelqu'un qui jeûne en lui disant parce que tu ne fais pas la prière, ton jeûne n'est pas valable. Ton jeûne, il est valable. Mais il faut l'encourager à prier en plus de jeûner.
D'accord.
Mais il
ne
faut pas lui dire ton jeûne, il n'est pas valable. C'est faux.
D'accord.
Par contre, quelqu'un qui fait la prière sans l'eau d'eau, sans les ablutions, là on peut le décourager, on dit ça sert à rien, ta prière elle vaut rien.
Voilà Samia, merci pour votre appel. Aziza est avec nous, bienvenue, bon ramadan Aziza.
Allo imam, assalamu alaikum. Je voudrais d'abord vous remercier tout au BFM pour tout ce qu'on fait, enfin ce que vous faites pour le ramadan.
Merci ma soeur, allez-y posez votre question.
Oui, j'avais deux petites questions, j'ai un fils Younous qui est au Togo et je lui avais demandé de sortir le Sadaqa et Fitr pour toute la famille. Est-ce que c'est possible? Il fait 2 mois et demi au Togo en stage.
Alors, il faut que ça soit 7 fois. Combien vous êtes de personnes dans la famille?
On est à 4, donc 7 fois 4.
Voilà. Si c'est la valeur de 28 euros que vous versez là-bas, il n'y a pas de problème.
Parce que les gens, ils sont extrêmement pauvres.
Très bien.
Très gentils.
Raison. Il y a au Togo énormément de pauvres. Vous pouvez y aller. Allez verser vos 28 euros.
Deuxième question, j'ai des problèmes aux ongles. J'ai mes ongles qui cassent tout le temps. Donc le dermato, il m'a donné des vernis, enfin des médicaments, mais en forme de vernis.
Oui.
Ça s'en va avec l'eau, mais dans 2-3 jours.
D'accord. Alors, donc, dans ce cas-là, puisqu'il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de vernis qui a pour objet d'embellir, mais un vernis thérapeutique, c'est la même chose.
Ça déforme les ongles et tout.
Oui, alors. Je continue, je vous réponds, ma sœur, comme ça vous comprenez. Supposons que quelqu'un il a un pansement ou des pansements dans la main. Est-ce qu'il doit enlever ses pansements pour faire ses ablutions? Bien sûr que non. Eh bien, à partir du moment où ce que vous avez qui est ce qu'on a le ha'el, ce qu'on appelle ce qui fait obstacle à l'eau avec la peau, eh bien, est quelque chose de thérapeutique, c'est-à-dire qui est un objet médical. Eh bien, là, ça n'annule pas les ablutions. Vous pouvez très bien faire vos ablutions normales.
Les ablutions sont valables.
Ce pansement. D'accord, vous mettez l'eau, vous passez l'eau par-dessus, il n'y a pas de souci.
Oui, donc c'est comme du vernis, mais c'est des médicaments. Je connais.
C'est pour éviter de se ronger la. C'est
non, 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 c'est que j'ai les ongles qui cassent. Et ça casse jusqu'à l'intérieur. Et ça difforme aussi. D'accord. Si je ne mets pas deux fois par semaine, ça
allez-y,
difforme les ongles.
Allez-y, faites-le. Vos ablutions sont valables, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, voilà. C'est thérapeutique, il n'y a pas de problème.
C'est des médicaments.
C'est comparable, je dis, c'est en analogie avec un pansement ou un bandage.
Bon, on complète notre spécialité ongles ce soir. Merci Aziza pour votre question. Rapidement, on termine avec Salah. Et Salah nous appelle de l'Aude. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan Salah.
Bonsoir Iman.
Bonsoir, salam alaykoum.
Philippe.
Bonsoir
merci
Salah.
Merci de me donner la possibilité de vous parler. Mon cas il est précis et délicat en même temps. Je voudrais savoir si dans le sourate, c'est-à-dire je connais pas le Coran, hein, donc c'est ma deuxième année que je fais le Ramadan. Donc moi j'ai ma situation, c'est que je me suis marié, j'ai fait un mariage éclair, ok, avec une trahison bien planifiée. Et une fois que les enfants sont arrivés, leur mère est partie et elle me prive de mes enfants depuis 5 ans, depuis 4 ans, sachant
éclair,
que 5
ans. C'est-à-dire éclair, c'est-à-dire rapide.
Éclair. Très rapide, ouais. le temps que la situation administrative et sa nationalité en main, les enfants en main, et faire en sorte que sa famille obède soit bien assise et de ce fait.
Donc c'est un mariage gris, tu veux dire?
Non, pour elle, oui, pas pour moi.
Donc, ah oui, c'est ce qu'on appelle un mariage gris, sinon ça aurait été un mariage blanc si c'était les deux. Si vous étiez tous les deux d'accord pour divorcer, ça aurait été un mariage blanc. Mais là, quand c'est l'un des deux, c'est le mariage gris.
D'accord.
Vous pensez que c'est un mariage gris. Est-ce que vous pensez qu'un mariage gris, une femme qui calcule un mariage gris, ferait des enfants avec son mari? J'en doute.
Eh bien, écoutez, non, mais ça, c'est...
Je pense que ça s'est mal passé entre vous, et puis voilà, c'est tout.
Non, vous pouvez pas dire ça. Vous me parlez de gris. Moi, je dis que ma situation, et ma question, elle est à lui-même. Je dis, est-ce que dans la sourate, puisqu'elle se dit musulmane, et elle se dit musulmane, toute une famille musulmane, etc., et qu'à côté, je vois pas mes enfants depuis 5 ans.
Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal.
Voilà.
Mais bon, Akhoui Al-Karim, il existe, on est dans un pays de droit. Il suffit d'aller voir d'une requête auprès d'un juge aux affaires familiales et elle sera condamnée si elle ne vous.
Mon but de mon appel, c'est pas de vous parler du code civil. Dans le Coran, est-ce qu'on a une sourate qu'on pourrait prononcer, d'accord,
pour faire quoi pour Allez-y, terminez votre question.
Pour m'aider à récupérer mes enfants, parce que la croyance, par Dieu, Dieu nous
permet. Apparemment, ton ex-femme est sans scrupule, elle n'en a rien à faire, ni du Coran, ni rien du tout. Ce qui va lui faire peur, c'est quand elle va voir la police arriver devant chez elle. Et toquer à sa porte, c'est tout. Akhoui Al-Karim, le seul moyen de faire ça, c'est d'entamer une procédure auprès du juge aux affaires familiales. Est-ce que le divorce, il a été prononcé, est-ce que vous aviez un droit de garde et d'hébergement?
Oui, bien sûr. Mais après,
alors à ce moment-là, vous faites constater un huissier. L'huissier va déposer avec ta requête au tribunal pénal. Hein, ça sera plus un tribunal civil, ça sera un tribunal pénal qui pourra la condamner jusqu'à 6 mois de prison et même en plus lui enlever les enfants. C'est-à-dire, vous pourrez avoir la garde des enfants et elle en prison. Ça existe en France des gens qui séquestrent leurs enfants au détriment de leur père. Hein, y a même une association qui s'appelle SOS Papa. Hein, ça existe. Qui défendent les intérêts des parents, des papas notamment, qui sont privés de voir leurs enfants parce que la maman se venge contre leur ex-mari en privant leur mari de voir ses enfants.
Ça là, on fera une émission d'ailleurs.
Malheureusement, ils instrumentalisent à mauvais escient leurs enfants. C'est eux qui souffrent, c'est eux qui vont payer les pots cassés dans tout ça. C'est dommage, c'est dommage.
Alors, lundi soir, on a une émission sur les conflits conjugaux, hein, qui sont les...
Oui, on va en parler, Inch'Allah, de tout ça, de toutes les conséquences qui suivent après, derrière, liées notamment aux enfants, mais aussi aux biens immobiliers, parce que c'est souvent des procédures judiciaires qui s'allongent dans le temps à cause des biens immobiliers, parce qu'il faut savoir comment on va partager, à qui la faute, etc. Et c'est par rapport à ça que le juge, souvent, se prononce tardivement.
Merci Salah pour votre question. Dans un instant, vous retrouvez la chronique d'Ismaël Mounir, beauté et sagesse de la voix prophétique.
Retrouvez Allô l'Imam tous les jours de 20h à 21h sur Beurre FM.